France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité par Sophie Delpont.
Bonjour à tous. En Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahou jette l'éponge. Il l'a annoncé hier soir, son échec à former un gouvernement dans une vidéo mise en ligne sur Facebook. Il laisse donc le champ libre à son rival, le centriste Benny Gantz. L'ancien chef de l'armée disposera alors de 28 jours pour tenter d'y parvenir. Une crise qui perdure depuis le 17 septembre dernier, à l'issue des élections législatives. Benjamin Netanyahou et Benny Gantz avaient récolté respectivement 55 et 54 élus. Au Canada, pas de majorité non plus pour Justin Trudeau. Selon les dernières estimations, les libéraux du Premier ministre sortant sont en bonne voie de remporter les élections fédérales, mais devraient tenter d'obtenir le soutien de l'opposition de gauche pour pouvoir gouverner. En Bolivie, des affrontements avec la police dans la capitale La Paz et à Potosí. Des scènes de violence ont éclaté dans plusieurs régions après la publication des résultats du premier tour de l'élection présidentielle il y a quelques heures. Dans la capitale constitutionnelle, une foule a mis le feu au tribunal électoral départemental. Le local de campagne du parti au pouvoir était saccagé aussi à Oruro. Le principal adversaire du président bolivien sortant, Evo Morales, ne reconnaît pas les premiers résultats provisoires qui donnent finalement le chef de l'État vainqueur dès le premier tour. Au sud de la Bolivie, au Chili voisin, la fronde sociale continue dans un climat toujours tendu. Les manifestations et les émeutes ont fait 11 morts 4 jours après le début de la contestation. Face à la fronde sociale, le président Sébastien Piñera doit tenir aujourd'hui une réunion avec les partis politiques. En France, les agriculteurs se donnent rendez-vous encore ce matin devant les préfectures pour interpeller le président Emmanuel Macron après une première mobilisation nationale le 8 octobre dernier qui avait, selon le syndicat majoritaire FNSEA, rassemblés sur les routes quelques 10 000 agriculteurs. Ils protestent toujours contre les traités de libre-échange comme le CETA et dénoncent aussi la déconsidération du monde agricole ainsi que les décisions des élus sur les zones de non-traitement des pesticides.
Écoutez, prenez le temps d'écouter. Au cœur de Paris, l'auditorium de Radio France accueille plus de 200 concerts. Symphonies, concertos, chœurs, jazz, récitals, opéras, avec les artistes les plus prestigieux. Prenez le temps de vous retrouver à l'auditorium de Radio France. Entrez au cœur du concert. Abonnement et réservation, maisondelaradio.fr.
Chaque jour sur France Culture, à midi, la grande table, Olivier Gisbert.
Alors que le pays bascule dans la crise, deux grandes voix du Chili exilées après le coup d'état de Pinochet. L'une en Espagne, l'autre en France. Dans Le ventre de la baleine, le romancier Luis Sepúlveda regarde les hommes tombés, tandis que le cinéaste Patricio Guzmán montre les permanences et la colonne vertébrale d'un pays entre lutte et nostalgie dans son nouveau film La Cordillère des songes.
La grande table, le magazine de la culture et des idées, ce mardi à midi et sur franceculture.fr.
Il est 6h03 sur France Culture, c'est un réveil en douceur avec Toufik Hakem.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour et bienvenue dans le Réveil culturel, le grand entretien de l'actualité de la pop culture en France, que vous pouvez écouter tous les jours de la semaine, tôt le matin à la radio ou quand vous voulez en passant par l'écoute en ligne ou l'abonnement au podcast disponible entre autres à partir de quelques clics de franceculture.fr. À la coordination Corinne Amar, à la réalisation Vincent Abouchard et ce matin à la prise de son Jérémy Kaufmann qui fait ses premiers pas à la radio. Welcome. Mon invité ce matin est l'artiste conceptuel Zineb Sedira. Le jeu de pommes à Paris lui consacre une exposition rétrospective qui couvre une période de sa vie, 20 ans, les 20 ans de sa vie de 1998 à aujourd'hui, ce qui permet de voir et de suivre le cheminement de l'artiste à travers ses questionnements sur la mémoire, la transmission ou la non-transmission d'une culture d'origine et les cultures qui s'inventent aujourd'hui autrement à l'ère du post-colonial et des crises migratoires. de Londres à Alger, en passant par Paris, dans des formes aussi diverses que la vidéo, les archives, la sculpture et la photographie, la plasticienne entremêle ses récits familiaux avec ses recherches historiques. L'espace d'un instant, c'est l'intitulé de cette exposition, la première d'envergure en France pour l'artiste Zineb Sidira. C'est au Jeu de Pomme, je le rappelle, à Paris, jusqu'au 19 janvier 2020.
Le réveil culturel. Mardi, Expo.
Bonjour Zineb Sidira.
Bonjour.
Votre histoire particulière est au centre de vos dispositifs artistiques. Alors commençons donc par parler de vous, de votre histoire géo, si j'ose dire. Française, vous êtes née à Paris, de parents immigrés algériens, et vous quittez la France dès l'âge où l'on peut quitter le foyer familial, c'est-à-dire à l'âge de 22 ans, pour vous installer à Londres. Pourquoi ?
Je pense que j'avais tout simplement envie d'apprendre une autre langue et puis surtout de voir ailleurs, comme on fait souvent à cet âge-là. J'avais envie juste de découvrir d'autres cultures, et j'étais beaucoup dans le milieu de la musique en fait à Paris. Enfin, pas en tant que musicienne, mais en tant qu'une personne qui fréquentait beaucoup de musiciens. Et évidemment, Londres paraissait la ville idéale pour la musique de ces années 90, ou fin 80, début 90. Donc non, c'était effectivement pour apprendre la langue et pour être dans un autre milieu en fait. Et puis peut-être plus tard, je me suis rendu compte justement en étant Londres que j'avais peut-être besoin aussi de cette distance par rapport à ma propre identité algérienne et française.
Alors racontez-nous justement comment Londres va servir de lieu où vous pouvez réfléchir sur votre histoire personnelle, sur vos origines, sur la culture de l'exil.
Alors justement, à Londres, je ne suis pas algérienne, je suis française. Je passe beaucoup plus discrètement, on va dire, qu'en France. Les gens ne savent pas, ne connaissent pas l'histoire de l'Algérie. Je leur dis je suis algérienne, ils ne savent même pas où est le pays. Donc ça me donne une certaine ouverture quelque part, ou une certaine relation par rapport à mon identité, ou ma couleur de peau, ou ma manière d'être, qui est beaucoup plus acceptée, on va dire, en Angleterre, dans un pays quand même, ou surtout à Londres. La diaspora ou l'immigration est beaucoup plus ouverte et acceptée, on va dire. Donc je passe comme ça assez facilement de groupe à groupe sans avoir réellement de problème de racisme que j'avais peut-être vécu quand même en France, je dois dire, même en tant qu'enfant et puis plus tard. Donc je passe un peu inaperçu comme ça, et ça me donne, je crois, cette envie justement de me rapprocher de mon identité algérienne et française pour le coup. Plutôt que de m'en éloigner. Je m'en éloigne, mais après, je vais y retourner, justement. Et puis, je décide de faire une école d'art, comme ça, un peu sur un coup de tête. Et en fait, de fil en aiguille, je monte d'échelle en échelle. Je me retrouve à faire un master à la fin, dans une école d'art à ses côtés, la Slade School of Art, où je fais justement de la vidéo, beaucoup de vidéos, mais dans ces deux dernières écoles où je suis allée, donc Central Saint Martin et la Slade School of Art, il y avait un très gros élément qui faisait partie des cours d'art, c'était le postcolonial, le féminisme. C'était vraiment deux thèmes poussés parce que nos profs étaient ou d'origine jamaïcaine ou pakistanaise, etc. Il y en avait plusieurs. Et puis aussi, beaucoup de profs étaient des féministes. Ils venaient de cette école de féministes des années 70.
Ça va structurer cette partie-là avec ces études postcoloniales, Zineb Sidira ?
Bah, complètement. C'est avec ces études postcoloniales que je découvre que je suis finalement africaine, que je suis algérienne, non, peut-être pas, mais que je découvre beaucoup de choses autour de l'Algérie, de cette histoire postcoloniale, que je découvre qu'il y a quand même beaucoup d'écrivains, beaucoup de musiciens, des réalisateurs, etc., algériens dont personne parlait en France, comme moi j'étais en France en tout cas.
Et vous décidez de faire ce fameux premier voyage en Algérie, puisque, je le rappelle, Zineb Sidira, vous êtes née en France.
Oui, je suis allée en Algérie pendant mon enfance, pour des vacances avec la famille, ça je l'ai fait comme beaucoup d'autres. Mais effectivement, il y a une période de 88, la dernière fois que je suis allée en Algérie avant le retour, c'était en 88. Donc pendant justement cette période en Algérie où il y a eu les émeutes du 5 octobre 88, j'étais allée juste avant. Et je n'y retourne pas jusqu'en 2004-2005 hein, parce que, on sait tous, il y a la décennie noire qui s'installe. Mes parents sont en Algérie, ils sont retournés, eux, vivre en Algérie juste avant 88. Donc nous retrouvent à Paris ou à Londres s'ils veulent nous voir, enfin s'ils veulent me voir. Mais en tout cas, moi, je ne retourne pas en Algérie pendant plus de 15 ans. Et donc le premier voyage se fait avec une invitation du Centre culturel français à Alger pour une exposition en partenariat avec la galerie ESMA, qui était une galerie algérienne. Et donc voilà, donc je reviens à Alger, et là effectivement je tombe complètement amoureuse de cette ville.
Et de son histoire, d'ailleurs.
Et de son histoire, et que, sur lequel j'avais déjà commencé à travailler auparavant, parce que j'avais fait des œuvres avec mon père et ma mère en 2003, sur la guerre d'Algérie, sur l'immigration. Donc j'avais déjà quand même abordé pas mal de ces thèmes-là, je dirais de peut-être 2001 oui, j'en avais fait au moins 3-4 œuvres autour de ces thèmes-là. Mais ce qui change, c'est quand j'arrive en 2004-2005, pour la première fois, j'ai accès directement, et pas qu'au travers de mes parents, directement à cette histoire coloniale au travers de l'architecture, de la mer et des gens, en fait. Donc c'est là où ça diffère un peu de l'histoire orale de mes parents qui, eux, parlaient effectivement de la guerre d'Algérie, mais d'une manière très personnelle, on va dire. Donc là, par contre, je déambule dans les rues, je vois le nom des rues, je vois les cafés, le milk bar, par exemple, etc., etc. Et là, je suis vraiment dedans. Et là, ça, effectivement, ça m'ouvre sur d'autres projets, beaucoup moins documentaires, beaucoup plus poétiques, hein, dans la réalisation de mes films, en tout cas. Et en même temps, j'entame cette collection de blagues orales que j'entends constamment raconter dans les bars, les cafés, les restaurants, chez des amis, dans des moments un peu festifs comme ça, ces blagues anti-terroristes que je commence tous les soirs à transcrire dès que je quitte le restaurant, je les note en rentrant.
C'est quoi l'approche, Zina Sedira?
C'est de me comprendre, moi. Ouais. C'est-à-dire, parce que même si moi, j'ai pas vécu la guerre d'Algérie, mes parents l'ont vécu, et que moi, ayant été élevée par mes parents qui ont vécu ces guerres d'Algérie, j'ai automatiquement eu quand même des séquelles ou des traces qui ont été laissées.
Que vous questionnez, d'ailleurs, dans vos installations.
Voilà.
Une des œuvres qu'on connaît le mieux de vous, Zina Sedira, c'est bien sûr ces films, ces trois films de 5 minutes projetés sur trois écrans, où vous mettez en scène trois conversations, c'est-à-dire entre trois femmes d'une même famille, la mère, la fille et la grand-mère, et qui s'expriment dans des langues différentes. Votre mère s'exprime en arabe, vous lui répondez en français, votre fille, elle, qui naît à Londres, je suppose, parle en anglais, n'arrive pas à comprendre votre grand-mère.
Oui, bah effectivement, ça c'est une œuvre que j'ai faite en 2002, et ça faisait partie des œuvres qui étaient des œuvres faites avec mes parents, mais souvent en France, puisque je retournais pas en Algérie. Mais effectivement, je me suis rendu compte un jour, en dînant en famille, qu'il y avait trois langues qui circulaient au sein de la même famille, et j'ai voulu faire quelque chose là-dessus.
Oui, vous mettez l'accent sur cette transmission qui n'est pas toujours possible.
Oui, effectivement, le clivage qui peut se faire dans une histoire diasporique, on va dire. Et là, notamment, la relation entre ma mère et fille, où elles ne peuvent pas communiquer verbalement ensemble, mais elles ont d'autres moyens de communiquer. Il y a beaucoup de tendresse, énormément. Donc du coup, ma mère a dû développer un body language qui beaucoup plus fort avec elle. Et elle le dit tout le temps, elle dit avec ses petits-enfants en Angleterre, elle est beaucoup plus attentionnée que ceux qui vivent en Algérie ou qui vivent en France, parce que justement, elle n'a pas pu, elle ne peut pas communiquer avec eux.
Collecter des archives et puis les utiliser, les exposer, les montrer, mais d'une manière artistique, comme si vous vouliez vous éloigner, Sidira, de l'analyse sociopolitique.
Je suis quelqu'un qui chine depuis toujours, depuis l'âge de 18 ans. Il me semble que j'ai fréquenté les puces, tout ça, depuis cette période-là, et j'ai continué à Londres. Et puis, il me semblait pertinent, quand j'ai décidé de faire un projet sur le Festival Panafricain 69, les années 60 étant ma période préférée pour chiner, au niveau vestimentaire ou au niveau de meubles, etc., il m'est paru important de combiner mon amour pour chiner avec, justement, mon intérêt pour l'archive. Donc je trouvais que c'était un bon moyen de commencer justement cette œuvre. Donc j'ai eu la chance d'avoir un budget, en fait, du Jeu de Paume et des autres partenaires, pour pouvoir chiner des objets ou des disques en relation avec cet événement de 69 en Algérie, mais pas uniquement, aussi les années 60 et toute cette période utopique, cette décennie utopique où on a vu beaucoup de mouvements variés.
Progressistes, voilà. Anticoloniaux, pour l'indépendance des pays africains. Pour la paix,
pourquoi
cette année et cette histoire, c'est-à-dire 1969, et le festival panafricain ont retenu votre attention, Zineb Sidira?
Alors ça fait un petit moment, j'ai vu pour la première fois le film de William Clark en 2009, quand il est sorti en DVD sur Arte, puisqu'il n'était pas accessible auparavant. Ensuite, je l'ai re-regardé il y a un an de ça, quand le Jeu de Paume m'a contacté pour exposer, pour créer une nouvelle œuvre. Et là, je me suis dit que c'était un film qui n'avait pas du tout vieilli, que j'avais vraiment envie de l'exploiter, et que surtout, j'étais encore étonnée que très peu de gens le connaissaient ou très peu de gens le montraient, en fait. Donc, je me suis intéressée à ce film-là. J'ai eu aussi la chance d'avoir accès à certaines archives en Algérie qui sont extrêmement dures d'accéder, comme la Cinémathèque d'Alger, le CNCA, etc. Donc j'ai eu accès, et en allant justement à la Cinémathèque d'Alger, là j'ai vu dans les archives des centaines de films dont je rêvais de voir ou dont j'avais entendu parler. Certains dont
Ça raconte quoi ? Une utopie ?
Bah oui, justement, la question, c'est qu'en est-il de cette fraternité, cette solidarité, cette hospitalité, et puis surtout cet panafricanisme qu'il y avait à cette époque.
Myriam Makeba sur France Culture et au centre aussi de votre dispositif, Zeynep Sidira, vous exposez au Jeu de Pommes en ce moment. L'intitulé d'ailleurs de votre rétrospective, parce qu'il y a plusieurs périodes de votre vie artistique réunies jusqu'au 20 janvier 2020 au Jeu de Pommes, l'intitulé c'est « L'espace d'un instant ».
Pour être franche, c'est un titre qui vient un peu d'une des œuvres qu'il y a d'ailleurs dans l'exposition qui s'appelle For a Brief Moment, The World Was on Fire. Donc on a juste écourté, on n'a pas voulu reprendre exactement le même titre pour l'exposition. Donc on a écourté un peu justement parce qu'on pensait que c'était justement, ça se situait bien par rapport aux œuvres. C'est vrai qu'on travaillait beaucoup sur le passé.
Sur la mémoire.
Et comme vous disiez tout à l'heure, sur la transmission, etc. Donc on pensait que c'était un titre qui recouvrait bien justement toutes ces idées.
La mémoire, la transmission, comment interpréter au présent les traces du passé, comment utiliser les archives d'une manière artistique, comment faire aussi revivre une période qu'on n'a pas connue. Par exemple, le festival panafricain qui a une grande place dans votre dispositif et dans votre histoire telle que vous l'exposez, Zeynep Sidira, c'est un événement que vous n'avez pas connu, que vos parents n'ont pas connu. C'est comme si c'était à la recherche d'un paradis perdu. C'était le côté l'Algérie indépendante qui revendique ses racines et sa personnalité africaine. Il y a eu un écho dans...
Alors d'abord, il faudrait que je dise que j'explique que j'ai fait déjà des œuvres auparavant où j'utilise justement, par exemple dans une œuvre, la photo comme arme de combat, l'humour comme arme de combat
bien
dans
sûr.
After in Hell. Et donc pour moi, là, c'est la culture comme arme de combat. Parce que vraiment, au sein du Festival panafricain, c'était d'utiliser la culture pour combattre en fait ce colonialisme. Et pour s'émanciper de cette... Donc pour moi, ça tombait dans les thèmes habituels qui m'intéressaient auparavant. Donc voilà, ça découlait de ça. Effectivement, la grande question qui se pose, c'est qu'en est-il de toutes ces utopies des années 60, mais certainement en Algérie. Alors ce qui était intéressant, c'est quand j'ai commencé à travailler là-dessus, j'étais aussi beaucoup en Algérie, donc je me suis retrouvée dans les rues le vendredi, à plusieurs reprises, dans les marches du Hirak, Alger. J'étais assez surprise.
Donc le mouvement de protestation né le 22 février, et qui fait que les Algériens sortent tous les vendredis pour protester contre le régime en place.
Exactement. Et du coup, j'ai été assez surprise de voir que beaucoup de gens ressortaient des photos de la guerre de libération et autres dans ces marches. Mmh. Et je me suis posé cette question, justement, cette utopie. Maintenant, les gens, d'ailleurs, dans ces marches-là, souvent disaient, le disent encore, d'ailleurs, ah là là, si on pouvait retourner vers ce que c'était l'Algérie des années 60, c'était vraiment une période, quand on parle à tous ces gens qui ont un certain âge, qui ont vécu cette période, ils disent tous la même chose, que c'était la période la mieux, malgré que c'était quand même...
C'était quand même une dictature
qui avait eu un coup d'état en 65, etc. Ouais. Mais la vie, au niveau culturel, je dirais, hein, ouais, c'est purement pour la culture qui réclame cette période-là. Il y avait effectivement beaucoup de choses côté cinéma, côté musique, côté théâtre, etc., etc. Donc bon, effectivement, ça faisait partie d'une politique du gouvernement, hein, de créer tout ça pour passer des messages qu'on connaît bien, anticoloniaux, etc. Mais donc voilà, tout ça m'a intéressé, en fait, ce combat au niveau de la culture, et puis aussi le fait que l'Algérie découvrait son africanité pour la première fois en 69. Ils se sont tout d'un coup rendu compte qu'ils faisaient partie d'un continent africain où il y avait des gens qui leur ressemblaient peut-être pas tellement, mais où il y avait aussi une culture extrêmement riche, et tous ces Africains étaient invités. Ils ont aussi découvert en même temps que l'Algérie était vaste et que dans le sud de l'Algérie, dans l'est ou dans l'ouest, on n'avait pas spécialement les mêmes cultures ou les mêmes traditions, mais on était quand même algériens. Donc ça, je trouvais ça assez fort quand même. Comme moi, je sais que j'ai découvert mon africanité à Londres. Hein, c'est en faisant mes études postcoloniales que j'ai vraiment découvert mon africanité. Donc je me suis retrouvée j'ai trouvé plein de liens, en fait, entre ce festival-là et ma propre histoire à moi. Effectivement, mes parents ne l'ont pas vécu puisqu'ils étaient en France à ce moment-là. Et moi non plus, d'ailleurs, parce que j'étais à peine bébé, ouais, à ce moment-là.
Et puis il y a d'autres installations dans votre exposition, Zinepsidira. La mer revient souvent. Photos, vidéos, la mer, le voyage, les paquebots blessés pour certains d'entre eux, les épaves, la mer souvent photographiée comme un désert.
Oui, oui. Alors la mer, c'est cette idée de la mer, mais est survenue justement quand je suis retournée travailler en Algérie en 2005-2004, où j'ai découvert justement la beauté, redécouvert la beauté du pays, puis Alger notamment avec cette mer si présente, hein, peu accessible mais présente. Et puis l'histoire de ce port à Alger quand même qui a une histoire au niveau de l'immigration, de l'exodus assez forte aussi. Donc j'ai commencé à faire beaucoup de travail autour de la mer, de cet espace entre la France et l'Algérie. Et puis la mer, c'est ma mère. Ça, c'est une autre chose qu'on a en commun, peut-être avec mon grand ami Moustapha Benfodil.
Écrivain donc, et journaliste algérien, très présent d'ailleurs dans vos vidéos, Zineb Sidira, et qu'on a eu d'ailleurs l'extrême privilège de recevoir à ce micro.
Voilà, donc on parle de la mer et de notre mère.
Et puis il y a dans votre exposition, Zineb Sidira, une nouvelle œuvre, si j'ose dire, c'est votre salon. Vous avez décidé de l'exposer parce que il témoigne de votre culture, de vos recherches, de vos questionnements.
Il y a une œuvre principale en quatre scènes, en quatre parties, et cette œuvre, Ways of Life,
ça veut dire
salon,
en français. Tout est en anglais dans vos intitulés.
Manière de vivre, ouais, je suppose. Et effectivement, j'ai déplacé mon salon, mon vrai salon de Londres, vers le Jeu de Paume, où on a fait une réplique à échelle 1 de mon living room, de mon salon, voilà, avec les meubles, avec le papier peint, enfin, avec un papier peint, une photo. Donc pour moi, c'est vraiment une installation photographique pour le coup, parce qu'on a trois photos très larges qui est la reproduction de mes murs. Et par-dessus ces photos-là, j'y ai rajouté des éléments, des photos, des cadres, etc. Alors pourquoi ? Parce que quand je réfléchissais à ce projet, je me suis rendu compte qu'en fait j'étais entourée des années 60 d'objets africains, d'objets maghrébins, tout ça chiné au fil des années.
Affiches de films égyptiens aussi.
Oui, affiches de films égyptiens. Et donc je me suis dit en fait, et puis la dimension anglaise, hein, quand même, je suis à Londres depuis plus de 30 ans, donc j'ai maintenant j'ai une identité anglaise. Donc je me suis dit que je voulais vraiment ramener cette identité aussi anglaise en France.
Parce comme si votre salon était un peu le reflet de votre personnalité, de votre culture composée, Zineb Sidira.
Complètement. Là, on est vraiment, pour le coup, on est vraiment dans l'autobiographique. Là, on est vraiment dans mon histoire intime et personnelle. Et puis, il y avait l'idée de l'hospitalité qui est dans le festival panafricain, mais que moi, je voulais recréer, c'est-à-dire un espace où on peut venir s'asseoir, écouter, regarder la télé, enfin, écouter un entretien, bouquiner des choses, regarder des objets, etc.
Zineb Sidira, vous vous définissez comment aujourd'hui?
Pourquoi, niveau identité
ou... Oui, niveau identité, moi, puisque l'identité est au centre de votre travail artistique.
Moi, je pense réellement que je suis française, algérienne et anglaise.
Et anglaise. Alors. Et que raconte cette dernière exposition? Parce que le fait de réunir un peu, une partie seulement hein, de vos travaux artistiques de ces 20 dernières années, le fait de les agencer, qu'est-ce que ça vous renvoie comme image?
Ben, que j'ai été très productive, peut-être, quand même, mais non, mais là, c'est, pour moi, c'est toujours, enfin, pour chaque artiste, je pense que c'est très difficile de devoir sélectionner 6 ou 7 œuvres sur une pratique de 30 œuvres. Hein. Mm-hmm. C'est toujours impossible comme travail. Heureusement qu'on travaille avec des curateurs, des commissaires d'exposition qui font ça très bien.
Et on travaille aussi avec l'époque. Pourquoi avoir réuni ces objets? Je rappelle qu'il y a aussi bien de la photo, de la vidéo, des sculptures, des archives, beaucoup d'archives d'ailleurs.
L'archive utilisée comme j'utilise peut redevenir une autre archive. Hein. Mmh. Donc elle peut être réutilisée plus tard hein, par qui sera intéressé à cette archive. Il y a très peu de choses sur le Festival panafricain. Moi, j'ai eu la chance d'avoir accès à pas mal de choses en Algérie, mais je sais que c'est pas donné à tout le monde. Donc j'espère que ça peut éclairer des choses dans cette période-là et aider certaines personnes à peut-être découvrir cette période-là. Mais je voulais aussi dire, et c'est vachement important pour dans cette histoire d'hospitalité, c'est que j'ai aussi invité des artistes à contribuer à l'exposition. Un ami Nabil qui a fait une playlist, Jason Audi.
Nabil Djedouani, ouais.
Voilà, excuse-moi. Jason Audi qui a montré des photos sur Oscar Niemeyer en Algérie en 69. William Klein, quand même, qui nous a prêté une affiche et des photographies. Et des photographes anonymes, malheureusement, que l'association Lumière à Alger m'a prêté. Donc des photos vintage des années 69 sur le Festival panafricain, mais malheureusement, on ne connaît pas le nom des photographes.
Une manière aussi de fêter le 50e anniversaire déjà du panafricain?
Oui, c'est ça, exactement ça, ça tombait bien.
Zineb Sidira, l'espace d'un instant, c'est à Paris, au Jeu de Paume, jusqu'au 19 janvier 2020. On ne pouvait pas ne pas passer Rachid Taha. C'est une version de travail de son fameux tube, sa fameuse reprise de l'hymne des exilés algériens, celle de, chantée d'abord par Ahmed Al-Harachi, Ya Rayah. Zineb Sidira, ça vous évoque quelque chose, bien sûr?
Bon, bien sûr, hein, quand on est fille d'immigrés, entre guillemets, on ne peut avoir Rachid Taha comme référence, ça c'est évident. Mais je l'ai beaucoup croisé, il aimait bien quand même l'art contemporain, je le croisais souvent chez Kamel Mennour. Hein,
et pourquoi vous dites fille d'immigrés entre guillemets?
Bah parce que c'est une appellation que je trouve un peu trop simple. Je suis quand même française avant tout, avant d'être fille d'immigrés. Mais bon, c'est l'appellation qu'on nous donnait, je me souviens bien, dans les années 80, etc., où on était les beurettes, où on était les filles ou les enfants d'immigrés.
Merci d'être passé ce matin, Zineb Sidira.
Merci.
Le Réveil culturel est à retrouver sur franceculture.fr. À demain.
Vous êtes sur France Culture. Dans un instant, les informations de 6h30. À suivre, le journal des idées de Jacques Munier et les enjeux internationaux de Julie Gacon. France Culture, l'esprit d'ouverture.
Chaque jour à 18h20, c'est le temps du débat sur France Culture. Emmanuel Laurentin.
Alors que ce mardi, le principal syndicat agricole appelle à une journée d'action dans toute la France, le temps du débat s'interroge sur le désamour entre le milieu agricole et l'opinion publique, en compagnie entre autres du cinéaste Édouard Bergeon, dont le film Au nom de la terre remporte un succès contrasté entre Paris et région.
Le temps du débat, ce mardi à 18h20 et sur franceculture.fr.
Que se passe-t-il lorsqu'un philosophe s'approche d'une toile de Léonard de Vinci? Les chemins de la philosophie tentent de saisir l'insaisissable Léonard.
Adèle Manrette.
Ben nous, on va essayer de voir les œuvres de Léonard de Vinci à travers le regard des philosophes. Ce sera donc de 10h à 11h.
La Joconde, la Sainte-Anne, Saint-Jean-Baptiste ou la Vierge au Rocher, cheminons aux côtés de Léonard de Vinci, les chemins de la philosophie, de lundi à vendredi à 10h et sur franceculture.fr.
Vous êtes sur France Culture. Tout de suite, le journal de 6h30 avec Sophie Delpont.
Bonjour à tous. Une nouvelle journée de protestation des agriculteurs en France. Aujourd'hui, après la mobilisation nationale du 8 octobre dernier, nous entendrons les raisons de la colère avec Pascal Colli, représentant FDSEA à Belfort. Dans cette édition, nous irons aussi au Liban où les annonces du Premier ministre n'ont pas réussi à calmer la colère des dizaines de milliers de manifestants qui continuent de réclamer le départ d'une classe politique dont ils dénoncent la corruption. Et puis nous pencherons sur un procès très attendu aux États-Unis. Aujourd'hui, le procès Exxon, géant de l'énergie, accusé d'avoir trompé les investisseurs en sous-estimant volontairement les risques financiers liés au changement climatique. Les agriculteurs sont appelés à des actions devant les préfectures ce matin par la FNSEA et les jeunes agriculteurs. Après une première journée d'action nationale le 8 octobre dernier, ils redoutent notamment les traités de libre-échange comme le CETA, traité entre l'Union européenne et le Canada, et une concurrence qu'ils jugent déloyale. Pascal Colli est président de la FDSEA dans le département de Belfort et il a confié ses craintes au micro de William Gay-Costa.
On nous demande de nous monter en gamme, alors que les prix ne suivent pas. Et parallèlement à ça, l'Europe et la France vont signer le traité du Mercosur ou du CETA. Donc c'est des traités qui vont autoriser des importations pays du Sud, d'Amérique du Sud et puis le Canada, avec des normes moindres que les nôtres. Donc voilà, nous, on ne peut pas être concurrentiel par rapport à ça. Donc voilà, c'est de ce côté-là, c'est inadmissible. Par rapport au Canada, nous, il y a 40 produits qui sont interdits en France, qui sont autorisés au Canada. Et ils vont nous amener de la viande. Voilà, essayer de comprendre la logique de nos responsables politiques. Moi, je ne la comprends pas.
Pascal Colli, au micro de William Gay-Costa de France Bleu, Belfort-Montbéliard. Hier après-midi, environ 80 agriculteurs du territoire de Belfort ont déjà vidé des bennes de déchets et de pneus devant la préfecture. Alors qu'hier, le ministre de l'Agriculture l'a dit une nouvelle fois, le compte n'y est pas quant à la rémunération des agriculteurs. Didier Guillaume faisait un point après un nouveau bilan de la loi alimentation qui devait justement rééquilibrer les relations commerciales entre producteurs, industriels et distributeurs. Et en parlant d'industriels, justement, la Confédération Paysanne, syndicat agricole, avait assigné aujourd'hui en justice le patron de Lactalis, le géant mondial du lait, pour non-publication des comptes de la société. Il se trouve que Lactalis a justement publié ses comptes il y a 2 semaines, ce que le syndicat agricole considère comme une victoire pour plus de transparence économique, Manuel Refez.
Lactalis devait déposer ses comptes annuels avant le 31 août cette année. Finalement, ce sera début octobre. Peu importe, c'est fait, notre demande a abouti, se félicite aujourd'hui Nicolas Giraud, le porte-parole de la Confédération Paysanne.
Ça fait des années qu'on réclame cette transparence. Ils avaient toujours l'habitude de ne pas publier leurs comptes, d'être le plus opaque possible ou de n'en publier qu'une partie. Donc là, voilà, on a l'impression que ça avance un petit peu et aujourd'hui, c'est une victoire pour nous.
La Confédération va désormais se pencher sur ses comptes avec l'expertise de cabinets comptables et avec cette question de fond, l'empire Lactalis se construit-il au détriment de la rémunération des producteurs de lait ?
Pour nous, c'est inacceptable que les paysannes et les paysans continuent à être payés en dessous de leur coût de production et que des groupes comme Lactalis et d'autres continuent à accaparer la valeur et à avoir des bénéfices et des chiffres d'affaires en augmentation. C'était le débat des États généraux, comment arriver à mieux partager la valeur ajoutée produite. On n'a répondu à rien et le gouvernement n'a répondu à rien avec la loi Egalim. Aujourd'hui, le chantier est encore totalement ouvert et ça ne peut pas durer longtemps.
La Confédération Paysanne qui juge par ailleurs regrettable que le gouvernement et les pouvoirs publics n'aient pas mis la pression eux-mêmes pour obliger Lactalis à publier ses comptes.
En Bolivie, le tribunal constitutionnel électoral départemental a été mis en feu cette nuit dans la capitale constitutionnelle. Les affrontements avec la police ont éclaté dans la capitale La Paz ainsi qu'à Potosi. Des scènes de violence qui ont éclaté dans plusieurs régions après la publication des résultats du premier tour de l'élection présidentielle. Le principal adversaire du président bolivien sortant, Evo Morales, ne reconnaît pas les derniers résultats provisoires qui donnent finalement le chef de l'État sortant vainqueur dès le premier tour. Alors qu'au sud de la Bolivie au Chili voisin, la fronde sociale continue dans un climat toujours très tendu. On atteint maintenant le nombre de 11 morts après les émeutes et les manifestations qui se poursuivent depuis 4 jours après le début de la contestation. Les Libanais, toujours en colère aussi, 6 jours après le début des manifestations, le gouvernement a pourtant adopté une série de réformes, hier annoncées hier après-midi par le Premier ministre Saad Hariri pour calmer la colère, la privatisation du secteur des télécoms, diminution de moitié des salaires des ministres et des députés ou encore un moratoire sur les impôts. Mais cela n'a pas l'air de calmer la rue, Chloé Doma.
Pas de nouveaux impôts, pas de nouvelles taxes pour remplir les caisses vides de l'État, mais une réduction de 50% des salaires des ministres et députés, une contribution de 3,3 milliards de dollars des banques et une privatisation du secteur des télécoms. L'annonce n'a pas convaincu les manifestants. Des promesses, ils en ont déjà entendu. Ils ne croient plus à cette classe politique héritée de la guerre civile. Ce qu'ils veulent, c'est la fin du système. Hier soir, ils étaient encore des dizaines de milliers sur la place centrale de Beyrouth et ailleurs dans le pays. Toute la nuit, de nombreux appels à poursuivre la contestation ont circulé sur les réseaux sociaux. Ce matin, les banques ainsi que certaines écoles et universités sont restées fermées. Beaucoup de boutiques ont gardé le rideau tiré. Mais le Premier ministre a donné l'ordre à l'armée de réouvrir les routes bloquées depuis 5 jours par les barrages des manifestants. De nouveaux rassemblements sont prévus dans la capitale cet après-midi, mais difficile de savoir à ce stade quelle sera l'ampleur de la mobilisation. Le climat pourrait se tendre, d'autant plus que dans la soirée, des milices des partis chiites Amal et Hezbollah ont défilé au centre-ville pour intimider les protestataires.
Chloé Doma, Beyrouth pour France Culture. En Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahou jette l'éponge. Il l'a annoncé hier soir, son échec à former un gouvernement. Il laisse donc le champ libre à son rival, le centriste Benny Gantz. L'ancien chef de l'armée disposera alors de 28 jours pour tenter de parvenir à former un gouvernement dans cette crise qui perdure depuis le 17 septembre dernier. À l'issue des élections législatives, Benjamin Netanyahou et Benny Gantz avaient récolté respectivement 55 et 54 élus. Aux États-Unis, c'est l'une des entreprises les plus riches de la planète, ExxonMobil, géant de l'énergie, qui est sur le banc des accusés aujourd'hui. Le procès doit s'ouvrir. Exxon est accusé d'avoir trompé les investisseurs en sous-estimant volontairement les risques financiers liés au changement climatique. Et si la justice ne fixe pas le montant de possibles dommages et intérêts, elle demande à ce que l'entreprise rectifie ses comptes et rembourse les sommes indûment gagnées. À New York, Louis Glory.
La plainte avait été déposée en octobre 2018 par le procureur général de New York. Derrière lui, des millions d'investisseurs américains qui estiment avoir été lésés par les pratiques trompeuses d'ExxonMobil. Le mastodonte du gaz et du pétrole, en effet, aurait menti en assurant avoir intégré dans ses comptes l'augmentation attendue du coût des émissions de gaz à effet de serre. Une fraude qui porterait sur des milliards de dollars sans plus de précision. Le groupe, par ailleurs, aurait aussi assuré que ses activités seraient peu affecté en cas de réduction par les autorités de la production et de la consommation d'énergie pour limiter le réchauffement climatique. Cette plainte enfin met en cause l'ex-PDG de l'entreprise Rex Tillerson, secrétaire d'État du gouvernement Trump jusqu'en mars 2018. Il savait, dit le procureur de New York, que les affirmations de la société étaient trompeuses. Mais la compagnie se défend. Elle évoque de fausses accusations, dénonce une enquête politiquement motivée résultant des efforts d'organisation anti énergie fossile. ExxonMobil se dit en tout cas confiante quant à l'issue du procès. L'été dernier, le gendarme américain de la Bourse avait classé sans suite une enquête fleuve consacrée aux pratiques comptables de ce super géant américain de l'énergie.
Un procès évité en revanche dans la crise des opiacés hier. 4 sociétés pharmaceutiques ont trouvé un accord à l'amiable leur permettant donc d'éviter ce procès fédéral inédit. 400 000 personnes sont mortes depuis le début des années 90 dans cette crise sanitaire sans précédent aux États-Unis, un accord qui se chiffre à 215 millions de dollars. Emmanuel Macron a désigné l'ancien président Nicolas Sarkozy pour être l'émissaire de la France aujourd'hui à Tokyo, alors que le Japon célèbre aujourd'hui l'avènement de son nouvel empereur, Naruhito, qui a succédé à son père Akito le 1er mai dernier. C'est un récit à Tokyo de Yann Rousseau.
Tout a commencé tôt ce matin par une cérémonie à huis clos dans des temples du palais en plein centre de Tokyo. Naruhito, le nouvel empereur, est venu annoncer à l'âme de ses ancêtres et à la déesse du soleil qu'il allait monter sur le trône dans la journée. Ensuite, il a enfilé un autre habit traditionnel pour la cérémonie de proclamation qui vient juste de commencer dans la salle des pins du palais. C'est une série de rituels qui remonte au 7e siècle et que les conservateurs refusent absolument de moderniser. Il existe d'ailleurs un décalage de plus en plus grand entre le couple impérial, qui a fait de brillantes études à l'étranger, qui parle plusieurs langues, et ses codes de la maison impériale. impériale qui est tenue par des hauts fonctionnaires traditionnalistes. S'ils n'ont pas le droit de faire de la politique, l'empereur Naruhito et l'impératrice Masako veulent quand même projeter une image de modernité et surtout d'égalité au sein de leur couple, ce qui est assez révolutionnaire, et cela risque de relancer très vite dans le pays le débat sur le système de succession. Pour l'instant, il est exclusivement réservé aux hommes, or le couple impérial n'a eu qu'une fille, et donc il n'y a plus qu'un jeune garçon pour assurer la survie de la lignée. C'est le seul neveu de l'empereur, un ado de 13 ans qui est déjà soumis à une énorme pression. La population se dit favorable à 80% à l'idée de laisser une femme monter sur le trône, mais une petite minorité conservatrice, et notamment le premier ministre Shinzo Abe, reste vent debout contre cette idée folle et va tout faire pour empêcher cette réforme.
Il est 6h40 sur France Culture, l'heure du journal des idées, avec vous Jacques Munier, bonjour.
Bonjour, bonjour Sophie Delpont, vous me prenez au dépourvu là, je viens d'entrer dans le studio.
Pardonnez-moi Jacques, vous vous intéressez ce matin à l'action d'un collectif de chercheurs qui dénonce le projet gouvernemental de supprimer l'Observatoire National de la Pauvreté et de l'Exclusion Sociale.
Et oui, des économistes comme Pierre Concialdi, Jean Gadret ou Antoine Matte, des sociologues, Maryse Marpsa, elle-même membre de l'ONPES ou Serge Pogam, rappelle le travail accompli par cet organisme public indépendant dans une tribune publiée par Libération. Il suffit, je cite, de se reporter au dernier rapport publié par l'ONPES pour constater que la nature des travaux engagés justifie pleinement qu'un tel organisme unique en Europe puisse poursuivre son travail d'analyse et de compréhension des mécanismes économiques et sociologiques qui sont à l'origine du développement de la pauvreté. Parmi ces études, celles qui ont traité de l'invisibilité de certaines populations qui, bien que pauvres, n'apparaissent pas dans les statistiques publiques et ne font donc pas l'objet de politiques spécifiques, ou la publication des budgets de référence qui, grâce à la participation de personnes représentatives de différentes configurations familiales, ont permis d'évaluer les besoins des ménages pour participer pleinement à la vie sociale, ou encore une enquête sur les différentes formes de mal-logement dans le cadre de la journée mondiale du refus de la misère consacrée aux droits de l'enfant ce 17 octobre dernier, l'ONPES a organisé en partenariat avec ATD Quart-Monde des opérations de sensibilisation auprès d'élèves du primaire en donnant la parole aux enfants et à leurs familles. Les signataires de la tribune dans Libération se demandent si l'objectif recherché en supprimant l'ONPES n'est pas de casser le thermomètre pour ne plus voir le malade et de brider une expression indépendante sur des sujets aussi sensibles que celui des inégalités économique, sociale, territoriale, éducative, de santé, de logement, que les mouvements sociaux de ces derniers mois ont pourtant remis avec force sur le devant de la scène publique. Car, insiste-t-il, l'originalité de l'ONPES est de conjuguer deux formes de connaissance de l'exclusion, l'une de terrain et l'autre scientifique, avec la mise en œuvre de méthodologies qui s'appuient sur la participation des personnes concernées par la pauvreté. Quand il s'agit de lutter contre les inégalités, les intellectuels prennent rarement au sérieux la capacité de personnes de toute extraction et de tout statut à imaginer les conditions de production d'une autre société, déplore Michel Lallemand sur le site d'information et d'analyse AOC. Le sociologue du travail souligne que les chercheurs en sciences sociales ont été particulièrement sensibles à l'expression négative de la critique en acte des inégalités, aux conflits et luttes sociales, mais qu'ils ont été moins attentifs en revanche à son volet positif, l'effort consistant à créer un écart entre ce qui est et ce qui pourrait être. C'est l'objet de son dernier livre consacré aux aventuriers de l'utopie, publié au Seuil sous le titre « Un désir d'égalité, vivre et travailler dans des communautés utopiques ». On pourrait lui rappeler que zadistes et gilets jaunes ont été copieusement enquêtés sur leur vie collective. Reste que son étude détaillée est éclairante. Je cite « Aux États-Unis, ces bâtisseurs des possibles résident dans ce que l'on nomme des communautés intentionnelles. Ces groupes ont pour trait commun de vivre et de travailler dans un même espace, de partager tout ou partie de leurs biens ou de leurs ressources et, ce faisant, de se placer délibérément aux marges du grand monde et de l'économie capitaliste. » Le dernier film de Ken Loach sort demain, Sorry We Missed You, raconte les ravages de l'ubérisation du travail à travers le destin cabossé d'une famille de Newcastle. Le réalisateur, dont les films ont souvent l'apparence de documentaires, s'explique sur son choix du cinéma dans La Croix à l'hebdo. Le cinéma est plus humaniste et permet davantage la nuance. Un film, ce n'est pas un programme politique. Ce qui lui permet de souligner, au-delà des idées, nos contradictions, la comédie de nos existences, les relations humaines. Cela dit, il reconnaît dans l'entretien pour Marianne avoir été marqué à ses débuts par la collaboration avec les scénaristes de la BBC pour des documentaires sur les sans-abri et les pauvres. C'est pourquoi il travaille avec des acteurs non professionnels. Chris, qui incarne Ricky dans le film, a été chauffeur pendant 20 ans. Quand je lui demandais « Que ferais-tu dans cette situation ?», il pouvait me répondre « Je ne pourrais pas poser cette question à un acteur », explique-t-il à propos donc de son dernier film. Et sur moi, Daniel Blake, qui raconte l'histoire d'un menuisier anglais de 59 ans, contraint de faire appel à l'aide sociale à la suite de problèmes cardiaques et qui se voit signifier l'obligation de rechercher un emploi. Il rappelle qu'il a participé à de nombreuses rencontres, notamment dans des centres médico-sociaux où des centaines de gens sont venus et beaucoup nous ont dit, après avoir vu le film, c'est mon histoire, là notre démarche prend tout son sens. Ken Loach, qu'on peut retrouver sur À Voix Nue, sur notre chaîne, n'est-ce pas, Julie Gacon?
Bonjour Jacques Millet.
Bonjour, oui. Dans À Voix Nue à 20h30, dès ce soir d'ailleurs.
Dès ce soir, on est mardi, ça sera le deuxième épisode. Bonjour voilà. Jacques Millet, bonjour à tous.
Au sommaire des enjeux, Julie, aujourd'hui, les manifestations au Liban sous l'angle des inégalités sociales.
Eh ben oui, pour faire suite à votre journal des idées, Jacques Millet. Les Libanais se sont encore rassemblés par milliers hier soir à Beyrouth, aussi bien que dans les villes sunnites de Tripoli dans le nord ou dans les localités chiites du sud, fief du Hezbollah, et ce malgré les annonces faites par le chef du gouvernement Saad Hariri que détaillait le journal de Sophie Delpont, un budget 2020 sans impôts supplémentaires pour la population, une baisse de 50% des salaires du président, des ministres, des députés, ainsi qu'une contribution des banques. Le grand mouvement social qu'on voit se déployer au Liban ressemble à plusieurs égards à celui qui a commencé il y a quelques semaines en Irak, écrivait ce week-end un politiste libanais dans le Washington Post. Les divisions communautaires ou religieuses n'expliquent pas tous les événements politiques du monde arabe. Bonjour Lydia Aswad.
Bonjour Julie Gacon.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes doctorante à l'École d'économie de Paris, chercheuse associée au Centre Carnegie sur le Moyen-Orient, ainsi qu'au World Inequality Lab, créé par Thomas Piketty, qui est votre directeur de thèse. Alors Lydia Aswad, votre propos en l'occurrence, c'est de dire que les manifestations géantes qui se sont déclenchées jeudi soir au Liban, elles s'expliquent largement par le très grand niveau d'inégalité dans le pays. Comment sont partagées les richesses au Liban, d'après les chiffres que vous scrutez ?
Alors oui, dans mes travaux de recherche, j'ai pu estimer la répartition des revenus au Liban entre 2005 et 2014. Et je trouve que les écarts sont vraiment extrêmes. Donc si on regarde la répartition, les 10% les plus aisés ont reçu plus de la moitié du revenu national sur cette période. Les 40% du milieu ont reçu à peu près 30%. Et enfin, les 50% du bas de la distribution, les plus pauvres, ont reçu seulement 10% du revenu total national.
Et la classe moyenne, qu'est-ce qu'elle représente au Liban? On a vu qu'elle avait joué un rôle primordial en 2011 dans les printemps arabes. Et aujourd'hui, 2019, à Beyrouth et ailleurs au Liban, qu'est-ce qu'elle pèse, cette classe moyenne? Et est-ce qu'elle existe surtout, eu égard aux écarts de revenus?
Ce que je trouve, c'est plutôt que le Liban a l'air d'être caractérisé par une structure sociale extrêmement polarisée. Et donc avec une classe moyenne quasiment inexistante. Donc qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire qu'au Liban, on a des riches qui sont très riches, avec des niveaux de revenus similaires à leurs homologues dans les pays aux revenus élevés, et des pauvres qui sont très pauvres, avec très peu de ressources, et aussi pauvres que les pays en développement.
Et avec aussi des disparités régionales?
Géographique, vous dites?
Oui, géographique, territoriale. Il y a Beyrouth, il y a le reste du pays.
Exactement, il y a la façade Beyrouth, Beyrouthine, et le reste du pays, et notamment le sud du pays qui est beaucoup plus pauvre. Alors, et même aussi Beyrouth, si on va à Beyrouth, les inégalités sont extrêmement visibles. Enfin. Vous avez des magasins de luxe à côté de réfugiés syriens qui marchent pieds nus.
Des grands malls, des grands centres commerciaux de luxe et aussi des quartiers d'expatriés, des quartiers francophones, des quartiers chiites, des quartiers sunnites et avec donc des disparités entre chacun. Alors ces manifestations ont commencé, tout a commencé par une taxe ou l'annonce d'une taxe sur le réseau de communication WhatsApp. Je voulais vous citer par exemple l'écrivain et cinéaste franco-libanais Sabil Goussoub qui dit « Au début j'ai préféré en rire, une taxe WhatsApp et le Liban s'enflamme, les problèmes d'électricité, d'eau, d'embouteillages interminables, d'armes, était donc anecdotique à côté du libre droit de communiquer entre nous gratuitement pour rire, pleurer, crier, prendre des nouvelles de nos grands-mères, se parler aux quatre coins du Liban et du monde. Les taxes sont au cœur du débat, Lydia Assoud. Le gouvernement a besoin de recettes fiscales pour alimenter des réformes économiques et sociales. Quels sont les secteurs que vous avez identifiés et qu'il serait judicieux de taxer, contrairement à une messagerie que tout le monde utilise parce que les opérateurs sont beaucoup trop chers?
Alors oui, plutôt que des secteurs, ce que je dirais, c'est plutôt des qui il faudrait taxer. Parce qu'in fine, les questions de taxation sont, enfin, les taxes sont toujours payées par des individus. Donc, dans le cas du Liban, pour l'instant, le système fiscal repose principalement sur un système de taxation indirecte. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la plupart des revenus fiscaux viennent d'une taxation sur la consommation, de taxation sur la valeur ajoutée. Et la taxe WhatsApp, justement, est une autre de ces types de taxation indirecte qui est régressive. Donc, par exemple, cette taxe WhatsApp était de 6 $ par mois, peu importe le niveau de revenu des individus qui vont la payer. Donc, cela touche énormément les individus aux revenus les plus faibles.
Alors, Saad Hariri a fait des annonces hier. Il n'a pas parlé de taxer les banques, mais de les mettre à contribution, tout simplement. Donc, ce n'est pas une nouvelle taxe sur les banques. Ce n'est pas ce que vous auriez peut-être pu conseiller.
Donc oui, donc c'est-à-dire que il s'agit de refaire une refonte générale du système fiscal et donc de changer et de mettre l'accent sur la taxation directe, c'est-à-dire taxer les individus de manière progressive et de faire cette taxation sur les revenus et sur les richesses. Donc pour l'instant, le système est dans l'ensemble régressif, c'est-à-dire que les plus riches contribuent moins que les plus pauvres, avec des taux de taxation sur les revenus, des taux marginaux relativement faibles par rapport au reste du monde, et extrêmement bénéfiques pour certains types de revenus, donc notamment les profits et les intérêts des banques. Donc c'est pour ça que les banques étaient relativement épargnées jusqu'à présent.
Ces annonces de Saad Hariri, vous les avez trouvées intéressantes? Est-ce que vous pensez qu'elles sont de nature? On a entendu que non dans le journal, et puis on l'a beaucoup entendu dans les rues libanaises, qu'elles n'étaient pas de nature à calmer la colère. Le chef du gouvernement a annoncé, par exemple, qu'il allait réduire de 50% les salaires du président, des ministres et des députés. 50%, c'est quand même... Là, ils vont être amputés de moitié. Ils étaient à ce point payés, ces hommes et ces femmes politiques, et qu'est-ce qui vous paraît intéressant dans ce qui a été annoncé hier?
Alors, pour moi, cette réduction de moitié des salaires des hommes politiques et la suppression de leurs privilèges est surtout une mesure rhétorique ou presque populiste. C'est-à-dire que c'est très peu par rapport à la gravité de la situation. D'autres réformes vont dans la bonne direction, notamment l'idée de mettre en place une taxation sur les profits des banques, donc des banquiers, qui devrait débloquer 3 milliards d'euros. Mais le problème, c'est que ça ne va pas permettre à la rue de regagner la confiance en gouvernement, puisque si le gouvernement est capable en 3 jours de débloquer 3 milliards d'euros, cela montre à quel point il a été de très mauvaise foi ces dernières années, puisqu'il a été incapable de le faire.
C'est vrai qu'on a senti un certain alarmisme soudain au gouvernement, et notamment en septembre, le gouvernement avait décrété l'état d'urgence économique, mais est-ce que ça ne fait pas des années, 30 ans depuis la fin de la guerre civile, qu'on dit que l'économie libanaise est une économie de rente non productive qui oblige à importer la majorité des produits de consommation, une économie de rente favorisée, et là c'est votre sujet, par l'alliance des chefs de milices et des milliardaires, dit un ancien ministre.
Alors oui, complètement. Le système politique libanais est basé sur un système donc sectaire à partir des confessions qui permet la mise en place de rapports clientélistes et d'extraction de rentes majeures sur les systèmes, sur les secteurs financiers et immobiliers notamment, qui sont très dynamiques. Et donc c'est l'ensemble du système politique qui explique les niveaux extrêmes des inégalités que moi je mesure et qui sont seulement la conséquence du système total.
Oui, vous parlez de la crédibilité de Saad Hariri, donc à débloquer 3 milliards en 3 jours, alors que ça fait en effet des années que les Libanais demandent des mesures sociales, mais aussi parce que peut-être la taxe WhatsApp a été la goutte d'eau, mais il faut dire que les Libanais avaient appris quelques semaines plus tôt que leur premier ministre, il y a quelques années, avait donné 15 millions de dollars à une mannequin sud-africaine, nouvelle tombée juste après que Saad Hariri décrétait l'état d'urgence économique. Donc on est encore une fois au cœur de votre sujet, à la question des inégalités, 15 millions de dollars. Est-ce que la question sociale, pour le dire vite, Lydia Aswad, est une question tout court au Liban, dans l'agenda politique? Est-ce qu'elle est construite comme un problème public? Est-ce que pèse également la Confédération Générale des Travailleurs Libanais qui s'était longtemps prévalu d'être la seule à se préoccuper des questions sociales dans les années 90?
Alors non, la question sociale vient juste d'être inscrite ces derniers jours par les citoyens dans la rue, mais elle a été complètement absente de l'agenda politique. Et c'est facile de comprendre pourquoi. Tout d'abord, il y a un manque total de données de transparence, c'est-à-dire qu'avant mon étude, les derniers chiffres sur les inégalités dataient de 1960, donc on savait très peu, même si c'était assez visible quand on va au Liban. Et la classe politique n'avait aucun intérêt à mettre cette question dans l'agenda politique, puisqu'il profite le plus de ce système et s'enrichissent bénéficie le plus de ces inégalités.
Alors, allez-y.
Et enfin, la dimension sectaire et identitaire a prédominé l'analyse politique dans le pays, donc au dépend de la dimension de classe ou des dimensions économiques, mais ce qui explique pourquoi jusqu'à présent ça n'a pas été mis en avant, alors que ces niveaux ne sont pas nouveaux, c'est-à-dire qu'ils datent depuis très longtemps.
Voilà, une dernière question pour conclure, Lydia Aswad. Le Liban est aussi l'un des pays voisins de la Syrie qui accueille le plus de réfugiés, officiellement plus d'un million de personnes dans un pays qui en compte 4,5. Est-ce que ça a contribué aussi à déstabiliser les infrastructures, l'accès à la santé, l'éducation du pays et à creuser les inégalités d'accès à ces services publics?
Alors, il faut être très prudent avec cela, parce que les hommes politiques libanais ont notamment essayé d'instrumentaliser et d'attribuer tous les maux, et notamment les maux économiques du pays aux Syriens, en disant qu'ils ont pris les travaux, l'accès aux hôpitaux, etc. Donc je pense que oui, mécaniquement, l'arrivée de ces réfugiés syriens ont augmenté les inégalités, puisque c'est une arrivée massive d'individus principalement qui ont des revenus très faibles et qui ont principalement travaillé dans les secteurs du bâtiment, donc dans des conditions déplorables avec des couvre-feux, etc. Mais ils ont également augmenté la demande pour certains types de métiers, comme des professeurs, des docteurs, etc. Donc ont probablement également créé des nouveaux emplois.
Donc c'est à nuancer. Merci beaucoup Lydia Aswad d'avoir été avec nous ce matin. Je précise qu'il est 1:56 pour vous, puisque vous êtes en ligne depuis Boston, où vous êtes en séjour à Harvard, et vous étiez par Skype, d'où les petits bruits qu'on entendait. Mais merci en tout cas beaucoup d'avoir été avec nous ce matin.
Merci beaucoup.
Bonne journée ou bonne nuit. Au revoir.
Merci, bonne journée.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Voir le monde au plus près, LSD, la série documentaire. Perrine Kervan.
Lichen, moisissure, cèpe, girole, psilocybe magique ou amanite toxique, les champignons sont des millions et ils ont des comportements insoupçonnés dont on a tout à apprendre, y compris l'entraide et la symbiose. Mais pour commencer, il faut choisir. Alors vous êtes plutôt mycophile ou mycophobe?
Les champignons sortent du bois. LSD, de lundi à jeudi à 17h et sur franceculture.fr.
Bonjour Guillaume Erner.
Bonjour Julie Gacot, bonjour à toutes et à tous.
Il est 6h57 sur France Culture et votre humeur du jour aujourd'hui dans l'actualité, un seul homme, Friedrich Hayek.
Oui bon, ok, c'est un peu excessif, mais bon, j'ai voulu attirer votre attention. Hayek, un économiste très peu connu en France, prix Nobel d'économie en 1974, mort en 1992, très âgé à l'âge de 92 ans, est de plus en plus commenté, comme par exemple dans un écrit du groupe Jean-Pierre Vernant, réunion d'universitaires de gauche, lesquels font d'Hayek un précurseur des idées fascistoïdes actuelles. Depuis le gouvernement actuel que le groupe Jean-Pierre Vernant n'aime pas et qu'il soupçonne d'être populiste, jusqu'à Steve Bannon, l'un des inspirateurs de la campagne de Donald Trump. Or, moi, Hayek m'obsède parce que l'on trouve chez lui le pire et le meilleur. Le meilleur, dans un livre publié en 1944, La route de la servitude, il formalise une critique d'une rare lucidité sur la nature des totalitarismes, nazisme et stalinisme. Pour lui, le fascisme est le stade auquel on aboutit quand le stalinisme a échoué. À ses yeux, lorsqu'un gouvernement prétend régir l'économie, il finit par tout planifier, y compris l'existence intime des individus. C'est pourquoi Hayek présente l'individualisme non pas comme une forme d'égoïsme, mais au contraire comme une attitude d'humilité à l'égard du processus social. C'est parce que je ne peux pas savoir ce qui est bon pour mon prochain et que mon prochain considère comme bon pour lui que je me garderai bien, explique Hayek, de dire, de conseiller quoi que ce soit à ce sujet. Et c'est en cela que la pensée d'Hayek peut être considérée comme une justification, par exemple, du mariage pour tous. Mais il n'y a pas que ça chez Hayek, il y a aussi le pire. Et le pire, c'est par exemple son soutien à des dictatures ou à des dictatures. Et c'est cela qui est singulier chez lui, construire l'une des critiques les plus convaincante du totalitarisme pour finir en défendant une dictature. C'est ainsi que parmi les admirateurs d'Hayek, devenu une idole parmi les anticommunistes, on trouvait le dictateur d'un pays dont on parle beaucoup en ce moment, le Chili, Augusto Pinochet, puisqu'il s'agissait de lui, admirait Hayek, l'invita à venir lui rendre visite et Hayek visita plusieurs fois le Chili en 1973 et dans les années suivantes, il rencontra Pinochet et il justifia la politique de Pinochet avec des phrases complètement incroyables comme celle-ci. « Personnellement, je préfère un dictateur libéral plutôt qu'un gouvernement démocratique manquant de libéralisme. La dictature au nom de la liberté, le concept est complètement disruptif, ce qui vous permet de faire d'Hayek au choix un penseur de la liberté ou de la dictature. »